soir de rock. Le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Depuis plus de 27 ans, Profil est la référence en rock progressif. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Bonjour, ici Bruno Laberge pour CKIA FM et voici votre bulletin d'information du vendredi 8 mars 2024, Journée internationale des droits des femmes. La Ville de Québec a annoncé un investissement de 64 millions pour entretenir et développer une soixantaine d'infrastructures sportives et récréatives. Plutôt que de miser sur un seul gros projet, la municipalité dit avoir additionné plusieurs projets de moindre envergure pour mieux répondre aux besoins des citoyens. On veut offrir le NEC plus Ultra dans nos quartiers, a assuré le maire de Québec, Bruno Marchand. Ce dernier a convenu qu'il n'y a pas d'immenses projets au menu de 2024, mais que c'est l'addition de plusieurs petits projets qui est plus à même de répondre aux demandes des citoyens. On couvre l'ensemble des spectres des besoins. Le but étant de répondre aux besoins des citoyens, non pas à travers d'immenses projets, mais à travers des réponses aux besoins des quartiers où les gens sont, a ajouté le maire. La Ville de Québec a entamé la démolition de l'édifice situé au 1773-1775 Première Avenue pour des raisons de sécurité. Plus tôt cette année, la Ville avait demandé et obtenu en Cour supérieure un jugement ordonnant cette démolition. Le propriétaire bénéficiait d'un délai de 10 jours pour prendre en charge les travaux à réaliser. Le délai de 10 jours ayant pris fin le 19 février sans action du propriétaire, la Ville a mandaté un entrepreneur aux frais du propriétaire pour procéder à la démolition, selon le porte-parole de la Ville, Jean-Pascal Lavoie. Même si de nombreux avis d'infraction ont été expédiés, l'absence d'entretien par le propriétaire depuis toutes ces années a mené à un état de vétusté généralisée. Notons que l'effondrement de la toiture le 17 novembre dernier a entraîné la fermeture pour une période indéterminée du populaire restaurant de sous-marin Le Marinier dans le Vieux-Limoilou. Il ne reste que 2 dimanches pour assister aux ateliers de création pour tous au Musée national des beaux-arts de Québec. Une façon amusante et conviviale de s'initier aux arts plastiques. L'atelier « Créatures fantastiques » est inspiré de l'exposition « Voir la nuit » présentement à l'affiche au musée. Lors de cet atelier de modelage, vous pourrez créer une créature fantastique aux couleurs de la vie nocturne. Hibou, loup et chauve-souris, la nuit est riche de créatures nocturnes énigmatiques et fascinantes, assure le musée. Les 2 dernières journées d'atelier sont donc le 10 et le 17 mars à 13h15 et 15h. C'est au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts de Québec et c'est seulement 5$. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org. Bonne journée internationale des droits des femmes.
Simplicité. s'il faisait usage d'un peu plus de jugement dans le choix de leurs activités, peut-être tous les hommes deviendraient-ils fondamentalement des étudiants et des observateurs, car il ne fait pas de doute que leur nature et destinée à tous sont pareillement dignes d'intérêt. Lorsque nous accumulons des biens pour nous-mêmes ou notre descendance, lorsque nous fondons une famille ou un État, ou même lorsque nous nous attirons de la renommée, nous nous montrons mortels. En revanche, lorsque nous nous confrontons à la vérité, nous sommes immortels et nous n'avons à craindre ni accident ni changement. Le plus ancien philosophe égyptien ou hindou souleva jadis un coin du voile de la statue de la divinité. Et aujourd'hui encore, sa toge frémissante demeure levée et je contemple une gloire aussi fraîche qu'il le fit, car c'était moi qui me montrais si téméraire en lui, et c'est lui en moi qui réitère sa vision aujourd'hui. Aucune poussière ne s'est posée sur cette toge, aucun temps ne s'est écoulé depuis que cette divinité fut dévoilée.
C'est une grande joie de marcher avec vous, Henry. Je me sens empressée de vous dire ma confiance.
Je remplace et me sens si loin de son foyer.
Vous êtes l'éclat vivant de la providence.
J'aime veiller sur la maison, les enfants et les fleurs. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Et supporte les absences de l'âme pensive. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire l'âme si vaste. Il faut écrire, choisir la vie, le murmure et le cri. Il faut écrire, laisser sa trace. Écrire l'âme si vaste, il faut écrire, choisir la vie, le murmure et le cri.
Allons à la découverte de soi et de l'être.
Je suis peu destiné à mon égard dans la nuit noire. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire la si vaste. Il faut écrire le jour, la nuit, ce que le cœur nous dit. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire.
Si je ne suis pas moi, qui le sera?
Si je ne suis pas moi,
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Cette semaine, on n'a pas d'invité. On va poursuivre avec le très beau livre là, qu'on avait commencé il y a quelques semaines, le Taureau Yogi des Bois. Justement, comme d'habitude, je vous ai lu un extrait de Taureau, Walden. Ensuite, Richard Séguin, son album Retour à Walden. Alors, dans les actualités, ou dans ce que j'ai lu dernièrement, bien, ou vu, évidemment, on a eu la fête des semences en fin de semaine dernière, qui est toujours un événement que j'aime participer parce que on commence à penser jardin, on commence à sentir le printemps, partager avec d'autres jardiniers. C'est vraiment une belle activité. Alors, dans les choses que j'ai vues, il y avait une conférence sur l'agriculture urbaine qui se développe beaucoup à Québec. Puis d'ailleurs, dans le Devoir de lundi, le 26 février, on parle de Québec, ville fermière. L'agriculture trouve un terreau de plus en plus fertile dans la ville de Québec. Depuis 8 ans, le nombre de fermes urbaines a triplé, au point de hisser la capitale québécoise parmi les premières de classe au milieu de métropoles comme Londres, Paris ou New York. Alors, ça m'a surpris, là, c'est qu'il y a beaucoup de fermes urbaines, mais quand on parle de fermes urbaines, ça peut être quelque chose qui est un peu industriel. Par exemple, dans Saint-Sauveur, on parle de la ferme aux champignons, qui est dans le quartier Saint-Sauveur, où on produit des champignons pour des grands restaurants de Québec. Alors, l'essor de Québec en matière d'agriculture commerciale se révèle fulgurant. La ville comptait 6 fermes urbaines en 2016, 9 en 2020 et 18 aujourd'hui. Leur nombre a donc triplé en 8 ans et doublé depuis 2020. À titre comparatif, la ville de New York accueille seulement 4 fermes urbaines de plus sur son territoire, malgré une population 15 fois plus importante que celle de Québec. Il y a aussi, dans l'agriculture urbaine, on parle aussi des jardins communautaires. On dit l'arrivée de la pandémie en 2020 a accéléré l'adoption d'un plan d'action dans lequel la ville promettait notamment de devenir plus favorable à l'implantation d'entreprises agricoles en milieu urbain. Le maire de l'époque, Régis Labeaume, promettait de multiplier les initiatives pour que nous plongions les mains dans la terre. Ces grains semés en 2020 portent leurs fruits. 4 ans plus tard, les entreprises agricoles se bousculent à Québec. Près de la moitié de la population, 46 % dit pratiquer une forme d'agriculture urbaine à la maison ou dans l'un des 38 jardins communautaires de la ville. C'est vraiment le jardinage, c'est vraiment une activité qui est, je dirais, philosophique, simplicitaire. Puis les jardins communautaires sont très prisés. Puis on a d'ailleurs dans les jardins, il y a des longues listes d'attente. En tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose de positif, je trouve, dans la ville de Québec, ce côté agriculture urbaine. Dans les choses moins positives, dans le Devoir de jeudi, hier, 7 mars, la chronique environnement, page 8, la Terre et ses océans suffoquent. La tendance à la hausse des températures sur la planète pourrait se calmer selon un expert. Le Devoir analyse la situation en données et en graphiques. Après un premier mois de l'année très doux, un deuxième presque printanier, février 2024 est le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète, selon les données de l'Observatoire européen pour le climat Copernicus, obtenues par le Devoir. Il s'agit du 9e mois d'affilée où un record est battu, signe d'une période exceptionnelle, mais loin d'être la dernière du genre. Et il n'y a pas que la température de l'air qui ne cesse d'augmenter, celle de la surface des océans fracasse aussi des records. Ainsi, la température mondiale de la surface des océans s'est établi à 21 degrés 1,06 en février, la plus haute moyenne jamais enregistrée. Le précédent record datant d'août dernier était de 20,98 degrés Celsius. Les océans ont aussi battu le record de température quotidienne. Le 28 février, le mercure a monté jusqu'à 21,09 degrés Celsius, battant le précédent record établi le 5 février précédent à 21,07. Si l'on écarte les records battus en février 2024, la précédente température quotidienne la plus haute, 21,2, a été atteinte le 24 août 2023. Et au Québec, les températures clémentes ont aussi été accompagnées de très peu de neige. À Montréal, on le voit, c'est exceptionnel. Par contre, c'est un climatologue, il dit « J'ai l'impression que ça va être un hiver classique dans les années qui nous attendent si la tendance se maintient », ajoute le chercheur. Alors, c'est dans le Devoir de jeudi, « La Terre et les océans suffoquent ». Dans le Devoir de mercredi, c'est plus un fait divers, mais quand même intéressant. Il est interdit de se faire justice face à un dindon sauvage. Un dindon mâle jugé agressif a été tué la semaine dernière à Louisville par un résident. Le maire de Louisville, Yvon Deshaies, a salué la semaine dernière l'abattage d'un dindon sauvage qui aurait effrayé ses citoyens dans un secteur résidentiel de sa municipalité. Or, il est interdit au Québec de tuer un animal sauvage dans de telles circonstances. Alors, je trouve un peu, on a le réflexe facile là, d'abattre les animaux. Moi, je n'ai pas été confronté à un dindon sauvage, mais j'imagine qu'il est plus dangereux que ça. En tout cas, je trouve ça dommage là, qu'on tue des animaux de façon gratuite comme ça. En tout cas, tout ça pour dire qu'on apprend dans le Devoir que c'est interdit de le faire de toute façon. Autre article dans le même Devoir de mercredi dernier, les chats domestiques, un fléau pour les oiseaux. Nos félins tuent chaque année plusieurs dizaines de millions d'oiseaux au Canada. Les chats sont omniprésents dans nos villes. Ils font le plus souvent la joie de leurs propriétaires. Ils sont très populaires sur les réseaux sociaux. Mais ces félins domestiques sont aussi de redoutables prédateurs qui présentent une menace constante pour les oiseaux qu'ils tuent par dizaines de millions chaque année au Canada. Chez les prédateurs non naturels, le chat est le plus important prédateur d'oiseaux, résume le directeur de l'organisme Québec Oiseaux, Jean-Sébastien Guénette. Ce dernier vient d'ailleurs de signer un texte dans la plus récente édition du magazine du même nom, dans lequel il invite les gens à agir pour réduire la menace que représentent ces animaux de compagnie, mais aussi les chats devenus errants. Le gouvernement du Québec indique d'ailleurs que le chat domestique est considéré comme une espèce exotique envahissante lorsqu'il est errant, sans propriétaire et en forte abondance en milieu naturel. Il peut alors avoir des conséquences néfastes sur la faune. C'est des millions d'oiseaux qui sont tués par les chats errants. Ce qu'on peut faire pour contrer ça un peu, c'est de nourrir les chats, laisser un peu de nourriture près de... Ou les récupérer, les chats errants, les adopter. Mais des fois, c'est difficile. Alors, mettre de la nourriture pour les chats, ça pourrait au moins les... Et diminuer la chasse pour des raisons alimentaires. Maintenant, c'est vrai que aussi les chats... Moi, j'ai des chats, mais ils restent à la maison, mais peut-être qu'il faut réduire le nombre de chats à l'extérieur. En tout cas, c'est à réfléchir sur le problème des chats domestiques par rapport aux oiseaux. Autre chose à suivre, j'en avais parlé la semaine dernière, l'éclipse qui s'en vient le 8 avril prochain. Et on nous dit que c'est un article dans le Devoir du 29 février. Et je vous disais que il y a un site Internet que j'ai retrouvé l'adresse. C'est le site Éclipse Québec. C'est éclipsequebec.ca. qui regorge de conseils et de trucs d'observation pour admirer l'éclipse en toute sécurité. Puis on dit, entre autres, de faire attention avec les lunettes, d'être certain que les lunettes qu'on se procure sont... ils ont la norme ISO, la norme ISO. On en parle probablement dans le site, le Québec, Éclipse Québec. Et ouais, c'est ça, il faut être très prudent. D'ailleurs, on déconseille d'acheter des lunettes en ligne parce que ces lunettes-là, c'est pas certain que ces lunettes-là sont vraiment sécuritaires. Faut absolument avoir des lunettes qui sont très sécuritaires pour observer l'éclipse. Alors, c'est pour le 8 avril prochain. Alors, comme je vous dis, c'est, le site, c'est eclipsequebec.ca. Il y a aussi un autre article que j'ai vu qui était vendredi dernier, vendredi le 16 avril, un autre article sur le film de Wim Wenders, W-E-N-D-E-R-S, et le film qui s'intitule « Les jours parfaits » ou « Perfect Days » que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. C'est encore une fois un article très élogieux. C'était la page B4 du Devoir de vendredi 16. Il dit « Instant de grâce », ainsi le portrait d'Hirayama. Hirayama, c'est le personnage principal. Se précise-t-il par petites touches à travers non pas les répétitions, mais bien les menues variations de ses routines épisodiques. Le scénario coécrit par Wim Wenders et Takuma Takasaki est construit autour de rencontres fortuites ou forcées avec un collègue novice indiscipliné, avec une nièce fugueuse, avec un inconnu désemparé et autres. Et chacun de ces tête-à-tête narratifs devient, mine de rien, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur Hirayama, qui, paradoxalement, écoute et observe plus qu'il ne parle. Cette attitude, elle est à l'image du film, évidemment. D'ailleurs, rarement le regard de Wim Wenders aura-t-il été aussi sensible et précis dans sa captation d'éphémères instants de grâce. Ces derniers surviennent inopinément, organiquement, et sont généralement photographiés par Hirayama, dont l'œil se substitue à celui du cinéaste. C'est un film qui mérite même d'être vu une deuxième fois. C'est tout simple, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est le contraire d'un film d'action, mais chaque petit détail nous apprenne sur le personnage qui est un peu énigmatique. C'est un genre de sage... C'est le personnage principal de son histoire, c'est qu'il nettoie des toilettes à Tokyo, mais à travers cette, finalement, ce qui semblerait un peu banal, ennuyeux, bien, on découvre un personnage qui est une sorte de sage, un simplicitaire, un philosophe. Alors, je pense qu'il est toujours à l'affiche dans les cinémas, le film « Les jours parfaits » que je vous recommande. Ensuite de ça, il y aurait un petit rappel là, qu'on aura un café philo, café philosophique, le 15 mars prochain à la librairie La Liberté. Et pour que ça fonctionne bien, parce qu'on la dernière fois, on avait beaucoup de gens présents, puis ça... à un moment donné, c'est que s'il y a trop de gens, ça limite la capacité de d'échange, là. Donc, on va demander pour cette fois-ci de vous inscrire. Alors, il reste encore des places. Si vous voulez participer au café de philosophie ou café philosophique du 15 mars à la librairie La Liberté, il faut téléphoner à la librairie tout simplement et laisser votre nom pour avoir votre place réservée. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, je vous lis des extraits de Taureau, Yogi des Bois.
Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running. Hey, hey. skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping and you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la 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 la
la la la la la la la la la. La raison pourquoi je passe cette place-là, c'est un petit clin d'œil justement au film dont je vous parlais tantôt, de Wim Wenders, Les Jours Parfaits. Dans le film, le personnage principal, il est le contraire de quelqu'un de techno. Et dans son véhicule, il écoute de la musique. Alors, il y a une belle trame sonore musicale avec beaucoup de musique des années 70. Et il écoute la musique sur des cassettes 8 pistes. Puis là, ben les différents personnages là qui côtoient à l'occasion embarquent dans son véhicule. Et ils se demandent tous qu'est-ce que c'est les cassettes 8 pistes. On est encore plus loin que les CD, ces cassettes 8 pistes. Donc, les jeunes ne savent pas c'est quoi. En tout cas, c'était un peu comique de voir le personnage qu'il a créé, qui est le anti-techno. Alors, bref, c'était ça, Van Morrison. Avant d'aller avec Toro Yogi des Bois, j'attire votre attention aussi sur une autre publication qui est la collection Psychologie. Dans les magazines Psychologie, on fait un peu de philosophie. Je dirais que la simplicité, la philosophie et la psychologie se rejoignent souvent. Et on a finalement, c'est un hors-série, collection Psychologie, qui s'intitule « Foutez-vous la paix et commencez à vivre » par Fabrice Midal. C'est tout simple, mais c'est très bien fait. Et j'aime beaucoup, je vais probablement en lire des extraits là, dans les semaines qui viennent, mais je commence par vous en parler aujourd'hui. Alors, Fabrice Midal, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que c'est de la philosophie comme dans l'Antiquité, je dirais, ou des façons de s'aider à mieux vivre. C'est vraiment de la philosophie près de la simplicité volontaire. Alors, c'est ça, c'est dans la collection hors-série Psychologie, Foutez-vous la paix. et commencer à vivre Fabrice Midal, M-I-D-A-L. Alors, je vous lis quelques extraits de Taureau, Yogi des Bois, de Colette Poggi, P-O-G-G-I. C'est un roman qui est presque un roman graphique, mais pas vraiment, parce qu'il n'y a pas assez d'images pour qu'on parle d'un roman graphique, mais il est quand même illustré un peu comme un roman graphique. Et c'est Colette Poggi, c'est une dame qui connaît bien les philosophies, les sagesses orientales. Donc, puis elle fait ressortir comment Taureau, par ses écrits, était proche de la philosophie orientale. D'ailleurs, Taureau lui-même pratiquait le yoga, donc il en fait un peu état dans Walden. Au 19e siècle, un Américain qui pratique le yoga était vraiment précurseur. Alors, voici. Quelle est la source du vrai bonheur? Bien des sages se sont, à ce propos, amusés de la folie des humains. Comme il est étrange ce bonheur dans la recherche duquel les hommes déjà accablés de tâches en assument sans cesse de nouvelles. Comment donc me serait-il possible de célébrer l'intelligence des hommes écrasés sous des montagnes de devoirs? Ils continuent à courir après le bonheur. Ça, c'est ça vient de la doctrine secrète de la déesse Tripura. Henri David Thoreau a choisi son camp. La simplicité à tout prix. Rien de compliqué, ni cuisine, ni mode, ni convention sociale. À quoi bon? Ce n'est bien ni pour le corps, ni pour l'esprit, et il n'a pas de temps à perdre avec ses fioritures. Il n'y a aucune nécessité à vivre selon les rites de cuisine compliqués. Ça vient d'un extrait de Walden. En Inde, la manière de se nourrir fait partie intégrante du chemin de vie. Elle est emblématique de la nature de chacun. Taureau, quant à lui, se dit quasi végétarien, excepté le poisson qu'il pêche à de rares occasions et à contre-cœur. Il éprouve une réelle répugnance à l'égard de toute nourriture animale. J'ai découvert maintes fois, dans ces dernières années, que je ne puis pêcher sans descendre quelque peu dans ma propre estime. Ça, c'est un extrait de Walden. Il se réjouit bien plus d'un repas frugal de bleuets à la saveur incomparable cueilli sur le chemin des bois, ne boit ni thé ni café et se trouve comblé par un peu de pain et quelques pommes de terre. Bref, il se range du côté des poètes. Il semblait que ce fût plus admirable de vivre de peu et de pratiquer la sobriété. Je crois que tous ceux qui se sont efforcés de leur mieux de garder leur qualité poétique, leurs aspirations intactes, ont senti la nécessité de s'abstenir d'aliments d'origine animale et, en règle générale, d'aliments trop abondants. Ça aussi, c'est un extrait de Walden. Comble d'originalité, l'argent pour lui n'a pas de véritable valeur. Sa seule vérité est de devenir simple, faire simple, manger simple, se vestir simple. Il porte un habit de velours, couleur de feuilles mortes, ou fait d'un tissu à toute épreuve une sorte de bure. La mode, la routine, le conformisme l'insupportent. De même, la propriété, le confort, l'enfermement dans des maisons, l'adduction de l'eau dans les villes, toute forme de luxe. Cette énumération peut sembler excessive. Pourtant, si une telle prise de conscience s'était généralisée, serions-nous aujourd'hui au bord du gouffre? La plupart des habitudes de luxe et une grande partie de ce qu'on nomme confort dans la vie sont non seulement des choses point du tout indispensables, mais même des obstacles véritables à l'ascension de l'humanité. Les sages ont toujours mené une vie simple et plus sobre que les pauvres. Les philosophes de l'Antiquité, chinois, hindous, persans ou grecs, étaient plus pauvres que quiconque quant aux richesses de ce monde, plus riches quant à celles de l'esprit. Ça, c'était un autre extrait de Walden, encore une fois. En bref, plutôt que de rechercher le superflu, une autre alternative, c'est de s'aventurer dans la vie. En parfait accord avec ce point de vue, l'agriculteur-philosophe Pierre Rabhi a mis en lumière la valeur de la pauvreté heureuse et délibérée. Il s'agit là du véritable pas de côté dans le rapport aux choses, un détachement spacieux, rien d'une posture mentale. Pierre Habib, dont on a parlé régulièrement à notre émission et dont je vais probablement revenir avec d'ici la fin de la saison. Alors justement, il y a un extrait de Vers la sobriété heureuse. « Je suis pauvre parce que, au plus profond de mon être, j'ai aboli toute avidité, toute fausse nécessité. Je puis vivre dans un palais ou dans une chaumière, tout en gardant ma nature immuable. » Il me semble que cette déclaration exprime l'essence du véritable yoga. On peut y déceler une double dynamique de détachement et d'élan. Le détachement consiste à se libérer des liens internes, les kleshas, sources d'affliction, ignorance, égocentrisme, attrait, aversion, désir d'exister encore et encore. L'élan incite à adhérer à un idéal de sagesse. Ou, dit autrement, le yoga est engagement vers la liberté, ce qui passe par le lâcher-prise, ne pas s'emparer, ne pas saisir, ni physiquement, ni mentalement, ni affectivement, ne rien posséder, en tout cas ne pas éprouver d'attachement aux biens matériels. Cet aparigraha, détachement yogique, est profondément libérateur. Il est la garantie de la sérénité dans les fluctuations inévitables de l'existence. Sans cette qualité d'être, la simplicité ne peut s'épanouir. Gandhi, qui fut fortement influencé par la lecture de Thoreau, loue également le courage d'être simple et le met en relation avec l'intégrité et l'autonomie, précisant qu'il est inhumain d'obéir à des lois injustes. De là découle le concept d'Hindu Swaraj, l'autogouvernance de l'Inde. Pour Thoreau, simplicité rime avec bonheur, inattendu, improvisation. À l'improviste, le hasard ou la providence nous envoie des amis et cela nous rend heureux. Les peuples qui vivent encore ainsi ont de quoi nous inspirer. Accueillir n'est pas accueillir ce qui advient. C'est là le sens véritable de l'hospitalité, devenir un hôte du présent, qui reçoit ou qui est accueilli selon les circonstances de la vie. N'est-ce pas l'essence aussi du yoga que de cueillir et d'accueillir, de recevoir, d'accepter? Ce n'est pas un hasard si Henri David Thoreau rêvait d'être un Amérindien. Pour lui, l'Indien possède une intelligence branchée sur la nature. Il partageait, sans le savoir, leur approche animiste du monde. Vivre en communion avec la nature, visible et invisible, les arbres, les plantes, les animaux, les éléments, les esprits. Assis ou debout, l'Indien paraît conscient d'être tout entier posé. Et lorsqu'il marche, il s'inscrit tout entier dans ce mouvement. N'est-ce pas cela l'art mystérieux du yoga, sous ses innombrables formes? Henri David l'aperçut grâce à la Bhagavad Gita et la Manusmriti. Alors, Thoreau était dans les premiers Nord-Américains à avoir lu la Bhagavad Gita qui venait d'être traduite en Angleterre, puis il était dans les premiers Américains grâce à son ami Emerson qui avait des contacts en Grande-Bretagne. Dès les temps anciens, ce terme yoga est polysémique. Si l'on interroge la racine du verbe yuj, un faisceau de sens apparaît qu'il faut replacer dans le contexte rituel du Veda et de la société agraire. Joindre, atteler, accomplir une offrande, ajuster une flèche, concentrer l'esprit. L'expression atmani, yuj, s'unir en soi-même, établir un contact avec soi, me semble la définition la plus emblématique du yoga en son essence. Afin de réaliser cette jonction, comme dans toute discipline, rigueur et zèle sont indispensables. Dans les Yoga Sutras, texte de référence attribué à Pantanjali, deux aspects complémentaires sont soulignés. La pratique assidue implique une continuité pleine d'élan, un engagement par rapport à la forme autant que par rapport à soi-même. Se consacrer avec ardeur à la pratique et à la connaissance sont les deux aspects indissociables du yoga. Alors, on prend une petite pause musicale, puis je reviens avec l'autre texte que je voulais, que j'avais lu la semaine dernière, des extraits de La puissance des liens.
Trop d'exigences ou trop de performances, je cultive la nonchalance. Et quand à fond ça gaze, je ne suis pas kamikaze. Sur la détente, je mets l'emphase. La barre est haute, il faut que je saute sans faire de faute. La barre est haute, il faut que je saute pour plaire aux autres. Tu prends une petite pause, c'est le gros bon sens qui me l'impose. Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose? Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose?
On s'y oppose?
Pour trop de dopamine et trop d'adrénaline, j'ajoute de la mélatonine. En forçant l'analyse, c'est que moi je maîtrise la façon de sauver la mise. La barre est haute, il faut que je saute sans faire de faute. La barre est haute, il faut que je saute pour plaire aux autres. Je pourrais-tu prendre une petite pause? C'est le gros bon sens qui me l'impose. Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose? Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose?
On s'y oppose?
À la bonne vôtre.
barre est haute. Au diable est faute, à la bonne vôtre.
C'était Jean-Marc Aurel. Une petite pause. Avant de poursuivre avec les livres dont je vous parlais, La puissance des liens, il y a aussi, j'en avais parlé dans les semaines dernières, là, un hors-série Philosophie Magazine, S'initier à la philosophie. Ça aussi, c'est si vous voulez commencer à vous initier à la philosophie, c'est un beau document. Qui est en kiosque actuellement encore. Ça fait un bout de temps qu'il est en kiosque, mais on peut encore le trouver. Et je vous lis un petit extrait ici de c'est un texte de Laurence Devillers, une ascension par la face nord. Ce n'est jamais philosophie, c'est s'engager dans un texte, c'est-à-dire s'y confronter. Lequel? Choisissez celui qui vous attire, et tant pis ou tant mieux, si c'est dur. Personne ne prétend que le sentier de la philosophie est facile. L'important, c'est qu'il vous bouleverse. Ce n'est jamais l'intention qui compte, c'est de s'engager qui change tout. On ne peut pas en rester à un vague. J'aimerais bien faire de la philo, il faut décider, et c'est par cet acte qu'il devient possible d'en faire. La possibilité ne précède pas l'action. Ce n'est pas parce que c'est possible que je l'ai fait, c'est parce que je l'ai fait que cela devient possible. S'il fallait que toutes les conditions soient réunies pour commencer quelque chose, on ne ferait jamais rien. Comment passe-t-on à l'acte? Redoutable question, parce que c'est là que s'inaugurent tous les miracles ou que se dressent toutes les entraves réelles ou imaginaires. Je ne suis pas cérébral, je n'ai pas le temps. J'ai eu 6 au bac, j'ai des enfants, un chien, un mari, ce qui permet de faire la part entre de simples velléités et des désirs inauthentiques. Il se peut que je confonde la philosophie avec autre chose, la psychologie par exemple. Et un élan vrai, c'est précisément quand aucune excuse ne tient plus et qu'avant d'avoir compris pourquoi et comment, on s'est acheté les pensées de Pascal, le gai savoir de Nietzsche, et on les lit. Le seul précepte qui vaille, c'est celui de Goethe. Au commencement était l'action. Lis, le reste suivra. Effectivement, il y a des très beaux textes. Moi, je vous recommande les textes, entre autres, d'Épicure, qui sont peu nombreux, mais... C'est très près de la simplicité volontaire. Les textes aussi des anciens stoïciens comme Marc Aurèle, mais plus récemment, on peut lire aussi des textes de Montaigne. C'est tous des textes qui sont près de la philosophie, comme on la présente ici à l'émission En toute simplicité, près de la simplicité volontaire, comme Pierre Hadot nous l'a expliqué. D'ailleurs, Pierre Hadot, que je vous recommande aussi, H-A-D-O-T, qui a bien expliqué que la philosophie dans l'Antiquité, c'était une façon de vivre. Puis c'est comme ça qu'on le présente beaucoup à l'émission, la philosophie en tant que mode de vie. Justement, dans cette optique, il y a un livre qui s'appelle « La puissance des liens ». Les liens... C'est, quand on parle de simplicité volontaire, on réduit le côté matériel, mais on compense, on enrichit d'autres aspects de notre vie. Puis un qui est très important, c'est l'aspect des liens. Et on est dans une société qui a tendance à nous appauvrir au niveau des liens. Il y a beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. Et ce livre-là, c'est une... plusieurs auteurs qui réfléchissent sur l'importance des liens. On a entre autres Christophe André, on parle souvent, qui enseigne la méditation, Boris Cyrulnik, Mathieu Ricard, entre autres. Alors ici, aujourd'hui, je vous lis des extraits du chapitre 3 de Ilos Kotsou et Caroline Lessire. Nous sommes des êtres de lien. Ilos Kotsou est docteur en psychologie, chercheur et auteur. Caroline Lessire est diplômée en études de genre, autrice et méditante militante. Nous l'avons vu, les humains sont des animaux sociaux incapables de survivre seuls, de vivre ou de s'épanouir en dehors du groupe. Nous sommes des êtres de lien qui dépendent les uns des autres et nous avons un besoin intrinsèque d'interagir et d'entrer en relation. C'est dans ce sens qu'Aristote dit des humains qui sont des êtres politiques. Il est manifeste à partir de cela que la cité fait partie des choses naturelles et que l'homme est par nature un animal politique. Ça, c'est une citation d'Aristote. Notre espèce, Homo sapiens, est apparue il y a environ 300 000 ans sur le continent africain. Au départ, un petit nombre d'individus, puis ces Homo sapiens se sont multipliés, développés, déplacés et ont investi l'ensemble de la planète. Cet incroyable succès est notamment attribué à notre extraordinaire capacité à créer des liens et à coopérer. Notre sociabilité est le produit de l'évolution. Nous la partageons avec les autres animaux sociaux. Notre cerveau et notre physiologie sont adaptés à la vie en société, favorisant la coopération, la communication et le partage d'informations. Pour la plupart des mammifères, la coopération est limitée aux membres de la famille. Les malades ou les moins valides devant se débrouiller seuls. Par contraste, même dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les mammifères humains coopèrent avec les individus sans lien de parenté et prennent souvent en charge les plus fragiles. Être en lien est un besoin fondamental. Comme le soleil, l'eau et les nutriments sont essentiels pour la survie et la croissance d'un végétal. Les liens sont un nutriment psychologique essentiel pour la croissance et l'épanouissement d'un individu. Selon la théorie des besoins psychologiques de base, la relation fait partie avec l'autonomie et la compétence des trois besoins psychologiques fondamentaux. Un nombre impressionnant de recherches scientifiques indique comment ces besoins psychologiques jouent un rôle crucial dans notre motivation et notre développement, et ce, quelles que soient les cultures. Être en relation, c'est faire l'expérience du lien, du soin, c'est se connecter de manière chaleureuse et étroite aux autres. Et c'est dans tous les domaines de la vie. La frustration liée à la relation s'accompagne d'un sentiment d'aliénation sociale, alors que la satisfaction est reliée au bien-être. Une autre étude suggère que les relations et l'autonomie conduisent à la gratitude qui, à son tour, renforce les relations dans une spirale positive. Une épidémie de solitude. Si les liens sont essentiels à notre épanouissement, l'absence de liens sur notre planète interconnectée est un problème majeur. La solitude touche environ un tiers des personnes dans les pays industrialisés. Aujourd'hui, elle est considérée comme un véritable enjeu de santé publique. Le dernier rapport du Surgeon General, le chirurgien général, qui est le poste le plus élevé au sein des services de santé publique des États-Unis, alerte sur l'épidémie de la solitude. Elle est bien plus qu'un simple sentiment négatif, précise le rapport. Elle nuit à la fois à la santé individuelle et à la santé de la société. Une étude qui a analysé 40 000 participants âgés de 16 à 99 ans vivant dans 237 pays a montré que la solitude augmentait avec l'individualisme, diminuait avec l'âge, était plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Les personnes les plus vulnérables étaient les jeunes hommes issus de cultures individualistes. Cela pourrait en partie s'expliquer par les conséquences du patriarcat qui décourage les hommes de ressentir leurs émotions et les amène à se déconnecter des relations. La solitude est aussi liée aux formes systémiques d'oppression, les populations discriminées pour des raisons du genre ou de santé étant plus à risque. semble également que la solitude soit un problème de plus en plus important chez les plus jeunes, alors qu'on a tendance à penser qu'elle concerne surtout les personnes âgées. Une étude internationale sur la solitude à l'école d'adolescents âgés de 15 à 16 ans a montré qu'entre 2012 et 2018, elle avait augmenté dans 36 des 37 pays utilisés. En 2018, près de deux fois plus d'adolescents présentaient des niveaux élevés de solitude à l'école comparé à 2012. Et il semble qu'il y ait un lien avec l'accès aux smartphones et l'utilisation d'Internet à des âges de plus en plus précoces. Une chose que nous, on fait à notre petite échelle, là, avec le comité de simplicité volontaire des Amis de la Terre, c'est qu'on organise justement des activités en cercle où les gens puissent connecter, créer des liens. Ça dure une soirée, comme le café philo dont je vous parle, là, qui s'en vient. Et c'est une façon de soigner un peu le tissu social. Et on parle aussi dans le texte de prendre soin des liens dans l'espace public, alors que les injustices sociales et l'individualisme tendent à déliter le collectif. Comment prendre soin de ces liens si essentiels? C'est bien plus qu'une question personnelle. Les caractéristiques structurelles et sociales de nos communautés peuvent favoriser ou décourager les liens. Il s'agit donc aussi d'une question politique, économique et sociétale. L'environnement politique et économique, en ce qu'il joue sur l'égalité et la justice sociale, la lutte contre les discriminations et la valorisation des normes de coopération plutôt que de compétition et d'individualisme, est essentiel. Il va façonner un contexte qui peut favoriser les liens. Cela permet aussi de ne pas oublier que les personnes les plus désavantagées économiquement, celles qui sont racisés, les personnes LGBT+, les résidents des zones rurales, les victimes de violences domestiques et celles qui subissent des discriminations ou des marginalisations sont plus exposées à la solitude. Les infrastructures sociales sont également centrales. Les parcs, les bibliothèques, les maisons de quartier sont des lieux qui favorisent les connexions. Les transports publics et la manière de structurer l'espace public et l'habitat peuvent aussi soutenir ou déliter ces liens. La création d'habitats communautaires transgénérationnels où les aînés et les plus jeunes bénéficient tout autant de la richesse et de la différence en matière de connexion sociale en est un bel exemple. Des cafés aussi, et les cafés librairies, dont qui sont les lieux où on fait nos cafés philo, sont à encourager. Alors, c'est ça. Je vous invite à vous inscrire au café philo pendant qu'il reste quelques places. Et l'émission est terminée là-dessus. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Québec réveille, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec réveille, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
CKIA, le journal.
Bonjour. Ici Bruno Laberge pour CKIA FM et voici votre bulletin d'information du vendredi 8 mars 2024, Journée internationale des droits des femmes. La Ville de Québec a annoncé un investissement de 64 millions pour entretenir et développer une soixantaine